Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Dans l'évangile de ce premier chapitre de Jean, dans le récit qui précède ce que nous avons lu, nous pouvons contempler Jean le Baptiste qui fait l'expérience du Dieu qui advient, puisqu'il l'a vu que le Christ est sur qui celui l'Esprit est descendu. Et le lendemain de cette expérience, Jean se tenait là au Jourdain, ainsi que deux de ses disciples, et voici qu'il désigne pour la deuxième fois le Christ comme l'agneau de Dieu. Cette expression qui désigne le Christ, le comprenons-nous vraiment? Parmi toutes les images présentes dans la Torah, c'est celle-ci que Jean le Baptiste a retenu dans cet évangile. Voici l'agneau de Dieu. Ce verbe, ce logos qui est le commencement de tout, le principe de tout être, qui est tourné vers Dieu, vers la source qui est le Père, ce logos qui est la vie de tout être, la lumière des hommes, celui sur qui l'Esprit descend, il est désigné comme l'agneau de Dieu. Et cet agneau, dans l'Ancien Testament, renvoie au Messie dont parle le prophète Isaïe, ou au peuple d'Israël aussi. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche comme un agneau traîné à l'abattoir. Ainsi, le serviteur de Dieu, l'envoyé, subira la persécution et la mort, mais ensuite il sera reconnu comme le sauveur de toute l'humanité. Mon serviteur triomphera, il sera élevé. Cette expression, nous le retrouvons fréquemment dans le livre de l'Apocalypse. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse. Et nous savons que notre liturgie des Gaules est une référence constante à la liturgie céleste que nous pouvons rencontrer dans le livre de l'Apocalypse. Le Christ que nous célébrons, c'est l'agneau immolé et vainqueur. Voilà peut-être qui nous semble peut-être un peu loin du Christ Pantocrator. Ce terme par lequel Jean désigne le Christ nous invite à revisiter notre compréhension de Dieu et du mystère de l'incarnation. Dans l'évangile de Jean, nous comprenons mieux ce mystère lors du lavement des pieds. Dieu, en Jésus, manifeste son amour infini pour l'humanité. Un Dieu qui est espace illimité d'amour et de lumière, comme le disent fréquemment Maurice Dundel. Et nous ne pouvons plus, à la lumière de l'évangile, penser Dieu comme un empereur, un despote, un Dieu tout-puissant. Et contemplant le mystère de l'incarnation, saint François d'Assise et saint Isaac le Syrien, que je pense ils ont une parenté spirituelle, nous rappelle que l'humilité est la parure de la divinité. En se faisant homme, continue saint Isaac le Syrien, il dit ceci, en se faisant homme, le Verbe l'a revêtu. Par elle, il a vécu avec nous dans notre corps, et quiconque s'en est entouré s'est fait pareil en vérité à celui qui est descendu de sa hauteur, a recouvert par l'humilité sa grandeur et sa gloire, pour qu'à sa vue la création ne soit pas consumée. Jean désigne donc Jésus, en fixant son regard sur lui, comme l'agneau, à deux de ses disciples qui aussitôt le suivent. Jésus demande aussitôt à ceux qui le suivent, « Que cherchez-vous ? » Que cherchons-nous en suivant celui qui est désigné comme agneau ? Que cherche l'humanité ? Cet agneau est désigné aussi comme celui qui enlève le péché du monde, qui porte, qui assume, qui est pris dans ses entrailles pour l'amour de ceux et celles qu'il rencontre. Que cherchons-nous en lui du sein de nos vies ordinaires ? La puissance, la reconnaissance à tout prix, l'apparence des notabilités, le succès tel que le monde l'entend, la puissance technologique qui nous donne l'illusion d'être tout-puissant. En suivant le Christ agneau, les disciples vont apprendre à se faire agneau, à entrer dans le chemin du Christ, et demeurer avec le Christ, c'est apprendre à entrer dans un chemin d'humilité, à vivre la grandeur de l'amour divin, faire l'expérience qu'il est tout amour. Maurice Dundel nous dit encore que la grandeur de Dieu, c'est qu'il n'a rien. La grandeur de Dieu, c'est qu'il donne tout. La grandeur de Dieu, c'est qu'il se vide éternellement de lui-même. La grandeur de Dieu, c'est qu'il est vide de soi. Et justement, c'est à cette grandeur que Jésus nous appelle. Vivre et demeurer avec le Christ, c'est entrer dans cette humilité. Renoncer à toute possession. Délivrer de nos déterminismes, de nos instincts, de nos adhérences, pour devenir un espace illimité d'amour et de lumière et entrer dans cette danse de la générosité divine. Évidemment, nous sommes souvent loin de tout cela et en contact de cette vie divine, nous faisons l'expérience de notre impureté, comme le prophète. Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Celui qui fait l'expérience tant soit peu du divin souffre. Et comme dirait Bertrand Vergely, c'est un signe de bonne santé spirituelle. Il souffre parce qu'il est entré dans les profondeurs, ou bien il entre dans un chemin, et il constate sa propre médiocrité et la banalité du monde. Mais le saint, comme nous rappelait le père Bernard lors de l'homélie sur la Toussaint, c'est celui qui a choisi Dieu comme axe de sa vie, qui se sépare de tout ce qui fait obstacle à sa relation avec Dieu, et qui vit sa vie dans une confiance absolue en Dieu malgré ses oublis, ses faiblesses, ses pauvretés. Et qui surtout ne désespère pas de la miséricorde divine et se laisse toucher par la braise de l'esprit. C'est cela aussi, suivre l'agneau, apprendre à se laisser toucher par la douce miséricorde de Dieu. L'humilité va aussi de pair avec la patience à laquelle nous invite l'apôtre Jacques. Prenons patience. Prenons le temps de demeurer petit à petit avec le Christ. Prenons patience avec nous-mêmes, patience avec les autres et patience envers Dieu. Prenons garde à ne pas nous juger nous-mêmes et puis nous juger les uns les autres, car le Seigneur est patient et miséricordieux. Le temps de l'Avent, nous le savons, c'est le temps symbolique de notre vie où nous sommes conviés à faire advenir le Christ en nous et autour de nous. L'incarnation n'a de sens qui, si nous donnons nos sens au Christ dans notre cœur. Nicolas Berdiev nous dit que Dieu, en tant que personne, veut l'homme non pour le dominer et s'en servir pour sa glorification, mais l'homme personne, répondant à son appel, avec lequel soit possible la communion dans l'amour. Dieu n'a d'autre désir que nous soyons revêtus de la charité divine, afin que, comme le dit Grégoire le Nazianz, que nous soyons un Dieu pour les autres, et particulièrement pour les pauvres. Et je termine avec cette parole, ce petit texte d'Éloi Leclerc dans Sagesse d'un pauvre, où qui nous parle d'annoncer la bonne nouvelle, ce que c'est qu'évangéliser. Pour moi, je crois que évangéliser, incarner le Christ, c'est exactement la même chose. Et voici ce que dit Éloi Leclerc. As-tu déjà réfléchi sur ce que c'est qu'évangéliser un homme ? Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire « Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. » Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et découvre qu'il y a en lui quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu'il pensait. Qu'il s'éveille à une nouvelle conscience de soi. C'est cela lui annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié, une amitié réelle, sans condescendance, faite de confiance et d'estime profonde. Il nous fait aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrances et d'atrocités leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu'en allant vers eux, nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu d'eux, des témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes sans convoitise et sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis, devenir agneaux de Dieu. C'est notre amitié qu'ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés en Christ. Alors en ce temps de l'Avent, je nous invite à devenir le bon berger de cet agneau qui demeure caché dans le monde des hommes. Amen.